Écoutez, on va démarrer ces deux journées de réflexion et de discussion sur le thème langue et science, langage et pensée. C'est le 12e colloque de rentrée et je suis content de l'ouvrir. Évidemment, je remercie la Fondation Hugo qui est à l'origine, en tout cas, des financements et de l'organisation de ces colloques, et les organisateurs, au premier chef, Stanislas Dehaene et Jean-Noël Robert, et évidemment le comité entier avec Gérard Berry et Antoine Compagnon qui ont participé à la réflexion qui a permis de mettre en place ce programme absolument magnifique. Ce colloque donnera lieu à une publication, comme tous les colloques le font, une publication aux éditions Di Jacob, et j'en profite pour vous signaler la parution du livre qui rassemble les contributions au colloque de l'année 2017, Les natures en question, dont Philippe Descola est l'éditeur, au sens anglo-saxon du terme. Donc, dans ces deux journées, vous allez découvrir différents thèmes. Il a valu, évidemment, que les organisateurs fassent des choix, parce que c'est un sujet très, très vaste. Hein. On y traitera des liens entre langage et culture, et donc des différences de culture qui sont associées aux différences de langage chez les humains. C'est un point de vue à la fois historique, l'humanité, l'histoire de l'humanité, et un point de vue géographique aussi, puisque malgré Internet et la suprématie de certaines langues, il existe encore des différences culturelles sur le globe terrestre. Pour Sapiens, toujours, c'est quand même mon animal préféré. Le développement des fonctions linguistiques, la part de ce qui est permis par la structure cérébrale, mais aussi la part de ce qui s'inscrit dans un milieu social et culturel auquel le petit sapiens est confronté après sa naissance, à une période où son cerveau est encore très très malléable, et ce pour plusieurs années, ce qui n'est pas le cas ou moins le cas pour les autres primates. Donc cette part est évidemment d'une grande importance et fera l'objet de plusieurs interventions. C'est une question essentielle, évidemment, parce que l'acquisition du langage est forcément associée à la pensée, en tout cas chez les humains. Mais encore, faut-il se mettre d'accord sur ce que penser veut dire, et vous allez voir que ce n'est pas si simple. Il faudra donc en passer non seulement par la question du développement et de l'éducation, qui seront brièvement abordées, à celle aussi connexe de l'évolution, tout particulièrement ses aspects génétiques et épigénétiques, qui n'a pas pu, faute de temps, être incluse en tant que telle dans le programme de ces deux journées, mais qui apparaît néanmoins indirectement à travers les exposés sur les sociétés animales, qui vont être très intéressants aussi comparé aux sociétés animales, à une autre société animale que la société humaine, puisque nous sommes quand même des animaux. Aussi des animaux. Rappelons cependant que du point de vue de l'anatomie orofaciale, tant de ce point de vue que de celui des structures cérébrales motrices, les projections entre les aires de Broca et celles de Wernicke particulièrement, ou les aires cognitives, la taille, la structure du cortex, les humains se distinguent de toutes les autres espèces, y compris des chimpanzés, et même des hominines archaïques les plus récents, comme les Néandertaliens ou les Denisoviens. Alors évidemment, ce colloque a voulu, c'est son titre l'indique, mais le titre suggère aussi une certaine indécision et une certaine difficulté à tout couvrir, c'est clair. Ouvrir une réflexion sur le rôle du langage dans la pensée scientifique. Ce qui introduit immédiatement la question de la distinction entre langue mathématique et langue naturelle. C'est une distinction, vous le savez, qui pose de multiples problèmes, parce que la notion de langue naturelle, dès lors qu'on met de côté les signaux de communication, comme les pures vocalisations, chez les humains, sur les grognements, par exemple, cette distinction reste assez ambiguë. Les mathématiques, pour certains, sont une langue naturelle. Les langues naturelles sont des outils très fins et logiquement structurés de dissection du réel. Ils sont aussi, la langue naturelle, sont aussi des outils de connaissance. Alors évidemment, tout peut dépendre des sciences que l'on va considérer. La situation n'est pas superposable entre les sciences physiques, par exemple, ou la biologie, qui relève de plusieurs théories, puisque les objets vivants sont des objets physiques, mais ont en même temps des propriétés qui leur sont spéciales, pour paraphraser Claude Bernard. Puisque nous parlions tout à l'heure d'évolution, qui, à part les créationnistes, prétendra que l'œuvre de Darwin n'est pas une œuvre scientifique, mais une pure métaphysique, bien qu'elle ait été écrite en langue naturelle, comme vous le savez. Quant aux autres disciplines, évidemment, les sciences humaines, comme on dit, les autres sciences ne le sont pas moins, il me semble. Le rôle des langues dites naturelles y est majeur, sans même parler de la littérature, puisque pour s'en tenir aux grands chroniqueurs qui font lignée, de Saint-Simon à Proust, en passant par Chateaubriand et Balzac, qui pourra prétendre qu'on sort de ces lectures sans une meilleure compréhension des mécanismes sociétaux et des structures psychologiques? Ce serait quand même très difficile. Cette difficulté de distinction entre les différentes formes de langage et les utilisations distinctes qui en sont faites sera donc l'objet de plusieurs exposés, sans compter celui dédié au langage informatique, mon cher Gérard. Donc, je termine là, sur cette brève introduction, pour vous dire que je me réjouis énormément de ces deux journées qui, comme c'est l'usage, permettront d'aborder un sujet aux facettes multiples, vous l'avez compris, au risque de devoir remettre le couvert prochainement sur un thème inépuisable, puisqu'il s'agit en fait de comprendre ce qui fait de nous des êtres humains. Je remercie tous les collègues qui ont accepté de participer, et le public toujours aussi attentif et fidèle du Collège de France.
Bonjour à tous, donc. On va vous présenter très brièvement le colloque, sachant qu'il y a deux parties quand même relativement distinctes, la partie scientifique et la partie... d'origine mathématique, si on veut, et puis la partie vraiment d'origine de la langue, et la langue des hommes. C'est un peu différent parce que Alain Cause va nous en parler, et on va lui laisser peut-être un peu plus de temps pour le faire. C'est un peu différent parce que les langages que nous avons créés sont assez différents des langages dont nous avons hérité. En mathématiques, en informatique, on crée des langages qui se retrouvent très très vite internationaux. Les particularités locales n'apparaissent pas beaucoup. Ça, c'est une grosse différence, on va le voir. Et on étudie aussi les langages. Gérard Huet va nous en parler tout à l'heure. On cherche à comprendre ce qu'est le langage dans le cerveau. Stanislas Dehaene va nous en parler tout à l'heure. Moi, je vous parlerai des langages informatiques. Donc, ce sont des langages synthétiques. Il ne faut pas les assimiler au langage naturel. Voilà. Donc, Jean-Noël va vous parler plutôt du reste.
Oui. Merci beaucoup. Alors, en tant que non-scientifique et primate, je vous laisse simplement... comme tout le monde l'aura remarqué, il y a deux thèmes parfaitement incompatibles dans ce titre, mais justement, nous avons découvert que peu à peu, ils se compatibilisaient, si vous me permettez, et il y a une sorte de chiasme qui se produit. Nous avons très souvent langue et pensée, et langage et science, les trois, en tout cas, langue, langage et pensée, sont intimement mêlés. Langue et science, il fallait comprendre à l'origine, science au sens le plus large, c'est-à-dire médiéval, où était la philosophie. Et pour reprendre notre conversation d'hier sur RFI, à l'instigation du producteur d'une émission qui s'appelle De Vive Voix, M. Paradou, je voudrais partir de deux exemples qu'il a donnés lui-même et qui donnent l'orientation d'une des parties du colloque. Il a commencé par citer Descartes, « Je pense donc je suis ». Je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense que si vous cherchez vous-même à vous rappeler vos souvenirs d'enfance ou de préadolescence, Que compreniez-vous lorsque quelqu'un vous a dit pour la première fois « je pense donc je suis », enfin, sans passer par Astérix, « toi tu penses, moi je suis », on ne comprenait pas « je suis quoi », n'est-ce pas ? Or, je crois que Descartes l'a dit pour la première fois en langue française, mais ce n'était compréhensible pour un philosophe que si l'on passait par le latin, c'est-à-dire que c'était le sens de « sum » qui était derrière, et pas du tout le sens français d'être de l'époque, et même le latin scolastique. Cette phrase donc n'était perceptible que dans une tradition préalable. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après, avec l'essor de la philosophie, de la pensée occidentale, de l'extension, de l'invasion de la pensée occidentale dans les langues asiatiques, « je pense donc je suis » est devenue une maxime prépondérante dans les traditions philosophiques chinoises et japonaises, pour prendre les exemples où je suis le moins perdu. Or, toutes les traductions qui ont été faites, et n'importe quel écolier japonais comprendrait la traduction, est parfaitement incompréhensible du point de vue de la langue japonaise. Mais simplement, on sait ce que ça veut dire parce que l'on sait, on a l'explication occidentale qui est derrière. Si vous disiez à un japonais vous prononciez cette phrase devant un japonais du 19e siècle, il ne la comprendrait pas. Et maintenant, non seulement c'est compris, mais on réfléchit dessus en Chine comme au Japon. C'est-à-dire donc qu'il y a une sorte de passation, de translation dans les deux sens, d'une langue dans une pensée, dans une philosophie qui s'est établie de façon très originale. L'autre exemple donné par M. Paradou hier était le prologue de l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. Et alors là, vous avez aussi, évidemment, tout le monde connaît ça, vous avez un magnifique exemple de ce que tout le monde connaît ou croit comprendre. Et déjà, je ne vais pas parler devant, comme dit le proverbe japonais, prêcher le dharma devant le Bouddha, mais avec tous les spécialistes qui sont ici, mais déjà, la traduction du latin, du grec en latin, de logos à verbum, il y a un abîme, n'est-ce pas, dont vous êtes tous conscients, sur lequel je ne reviendrai pas. Mais cette phrase primordiale a été traduite en chinois puis en japonais, elle a ouvert des perspectives tout à fait différentes. Les Chinois, au XVIIe siècle, enfin, c'est par l'intermédiaire de missionnaires italiens, ont pris pour traduire ce logos verbum le mot Tao, tout simplement, en toute modestie. C'est-à-dire, ils ont pris le logos grec, ils l'ont remplacé par la notion fondamentale de la pensée chinoise, qui est le Tao, qui n'a absolument rien à voir avec le logos ni avec verbum. Il y a un lien quand même linguistique, mais sur lequel je ne vais pas revenir ici. Si bien que lorsqu'un lettré chinois lisait dans la Bible, au commencement était le Tao, il ne pouvait pas ne pas être d'accord. Et ça a donc donné un assentiment, à la fois un assentiment et puis une nouvelle vie de ce concept. Et le pompon, si j'ose dire, a été fait avec la traduction japonaise, puisque les Japonais ont traduit verbum, cette fois, par un mot japonais qui signifie la parole, qui est l'un des termes japonais les plus anciennement attestés dans la pensée, ce que je pourrais appeler la pensée littéraire et linguistique du Japon. Or, cette parole est expressément, dans les textes anciens japonais, reliée à la parole divine, mais à la parole des dieux japonais, n'est-ce pas ? Et en plus, affublée d'un suffixe honorifique qu'il associe à la divinité, cette parole divine est parfois, qui se disait en japonais ancien, Mikoto, est parfois le nom même de la divinité, des divinités japonaises. Tous les noms japonais de divinités sont suffixés avec ce verbe Mikoto, qu'on traduit le plus souvent par Dieu, divinité, mais qui peut aussi s'interpréter comme parole divine. Alors, vous voyez que dans ces quatre cas, n'est-ce pas, Logos, Verbum, Tao, Mikotoba, Mikoto, Mikotoba, je simplifie un peu pour les besoins de la cause, mais, vous avez, si on faisait une machine translation, je pense qu'il n'y aurait aucun problème. Au commencement était le verbe, on traduirait tout de suite énergie et logos, etc. Mais donc on croirait qu'il y a une unité d'énoncé, donc de pensée, mais verticalement, chacune de ces quatre traductions ouvre sur un domaine traditionnel, je dirais, de culture spécifique qui permet des combinaisons, si j'ose dire, de pensées absolument extraordinaires. Alors voilà quel était à peu près le point de départ de l'un des points de vue de ce colloque. Et l'autre étant évidemment la question des sciences dures et des vraies sciences, et le débat entre les deux, ce que nous allons faire maintenant, comme aussi Alain Prochance l'a bien exprimé, est-ce que nous allons vers une langue à la fois de pensée et de science universelle, qui serait forcément l'anglais, ou est-ce qu'il faut préserver les différentes traditions de langage et de pensée qui puissent déboucher sur des visions originales qui influeront sur la science. Voilà, c'était à peu près quelques-unes des préoccupations qui ont présidé à ce colloque qui est vraiment en effet extrêmement divers, mais vous allez voir, et peut-être nous en reparlerons lors de la conclusion, que sous cette diversité peut poindre une certaine unité qui est déjà pressentie dans certains éléments de la pensée de l'extrême-orient. Je voudrais simplement revenir sur un petit point de détail. Gardez précieusement ce programme qui va devenir tout de suite un collecteur, puisqu'il y a est annoncée la présence de Barbara Cassin cet après-midi, qui malheureusement ne peut pas venir parce que, en même temps que nous, a lieu à l'Académie française un événement qui est très important, le discours de réception de notre collègue et ami Michel Zinc, et Barbara Cassin, qui est aussi maintenant académicienne, doit y assister. Et malheureusement, comme elle part demain pour le Maghreb, si je puis me permettre de présenter cette traduction du dictionnaire des intraduisibles, j'étais obligé de la remplacer au pied levé. Alors vous pourrez peut-être partir lorsque je parlerai. Je suis vraiment désolé auprès de mon collègue et ami Marwan Rached de lui donner un si piètre partenaire, mais enfin j'essaierai de faire de mon mieux. Et nous allons peut-être maintenant, si Alain Cohn en est d'accord, et avec, sous la présidence d'Antoine Compagnon, nous allons commencer la première partie de cette journée. Merci beaucoup.